Très bientôt.
Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud.
Ce fut la plus grande guerre chimique de l'histoire. L'utilisation au Vietnam de l'agent Orange, un puissant herbicide contenant de la dioxine. Aujourd'hui encore, ce poison a de terribles conséquences.
Rendez-vous avec X, tous les samedis à 13h30 sur France Inter.
France Inter, la différence.
Il est 15h04, je vous laisse en compagnie de Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Bonjour, c'est Mireille, près de Limoges. Voilà, je vous appelle au sujet de ce qui se passe en Syrie, complètement écœurée, et comme disait Bernard Guetta ce matin sur Inter, comment le monde peut-il ne rien faire? Quand est-ce que des manifs vont être organisées? Ici, ailleurs, partout, qu'on puisse au moins montrer ce que l'on ressent et essayer de faire quelque chose. Au revoir.
Concernant le mécanisme européen de stabilité adopté ce 21 février à l'Assemblée nationale, notre député socialiste de Meurthe-et-Moselle, Christian Ecker, s'est longuement interrogé sur son blog sur l'attitude à adopter. Solidarité avec son groupe politique, avis personnel, pression des électeurs, tout cela est bien compliqué. Mais tout problème trouve sa solution. Et notre cher député a eu son eureka imparable. Je le cite. Après avoir écouté Costa Gavras et d'autres Grecs ce matin, j'ai décidé de me rallier à la proposition de mon groupe et de m'abstenir. Costa Gavras, économiste réputé. Il fallait y penser, pas vrai Daniel? Allez, bon courage à tous. C'était Liliane en Meurthe-et-Moselle.
Allez, il faut voter pour lui, putain, allez, il a dit qu'il recommencerait pas, mais non, il retournera pas au resto, là, mais non, il est gentil, il ne veut que du bien, il a compris, allez.
Bonjour, juste une anecdote, et puis bravo pour cette émission équilibrée et éclairante sur la Hongrie. Mon anecdote, c'est la suivante. En 66, j'étais journaliste, je suis toujours un peu d'ailleurs. Je suis allé faire un voyage officiel, je dis bien 66, 10 ans après la Révolution hongroise. Un voyage office plus ou moins officiel, et parmi les amis, il y avait Claude Roy. Nous nous sommes retrouvés plusieurs jours ensemble, et un après-midi, nous étions dans un parc d'attractions, comme il y en a beaucoup dans les pays de l'Est. On s'est amusé, il m'a lancé un défi devant un stand de tir, il m'a dit « prends la carabine et on va voir quel est le meilleur ». On a beaucoup plaisanté, il y avait 10 ou 15 Hongrois autour de nous, on tirait et tout d'un coup, grand silence, le vide, plus en Hongrois, deux soldats soviétiques étaient venus se joindre à nous. Alors on s'est regardé avec Claude Roy et on a aussi posé nos fusils et on est parti.
Bonjour là-bas, si j'y suis, bonjour Daniel, merci. C'est Pierre à La Roche-sur-Yon, dis-moi Daniel, si tu es toujours à Budapest, est-ce que tu nous feras un clin d'œil depuis cette magnifique et imposante statue de Marx qui trône, clin d'œil à l'histoire, au milieu de la salle de réunion de l'école supérieure d'économie d'entreprise. Ah ma foi, elle vaut le détour. Salut.
Merci Daniel et toute l'équipe pour cette belle série d'émissions sur la Hongrie, si juste, si équitable, si digne. Une vraie bombe qui guérit le coup de hache donné dans mes racines par la Commission européenne et plus particulièrement par Daniel Cohn-Bendit. Quand cessera enfin cette mentalité conservatrice d'anciens colonisateurs d'agresser les représentants démocratiquement élus d'autres peuples comme un mauvais instinct agresse les élèves dans la cour de récré? N'est-il pas vrai que ce genre de comportement est à mille et mille fois l'origine de conflits et de guerres dans ce monde? N'est-il pas vrai que ce genre de comportement ravive davantage le nationalisme de chacun qu'une bonne centaine de Victor Orban doublée d'une bonne dizaine de Joseph Antol? Je suis né, j'ai grandi et j'ai quitté la Hongrie sous le régime de János Kádár. La Hongrie, c'est mes racines, c'est la moitié de ma vie. J'ai été émue par le témoignage d'Esther et je me souviens aussi de ce système scolaire beaucoup plus respectueux du rythme de vie des enfants, plus riche en diversité et en possibilités d'activité au choix que mes enfants à moi n'ont jamais pu connaître dans leur scolarité en France. J'ai été ravie de retrouver Gaspard Miklós ancien dissident que j'ai lu avant d'être afflé mille et une fois par ce régime politique qui existait, même sous le régime de Yanaj Kadar, je peux témoigner aussi des menaces de mort qui étaient infligées à mon égard, jeune étudiante et puis jeune ingénieur agronome, dans cette agriculture hongroise qui était effectivement une sorte de vitrine à l'époque, sans compter l'argent qui venait de l'Occident. Enfin bref, ce régime était quand même pas mal l'origine de beaucoup de problèmes qui existent aujourd'hui en Hongrie.
Merci, merci, chère amie hongroise, chère AMG, pour ces messages que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, j'y suis au 01 56 40 37 37. Et bien aujourd'hui, on part, on quitte la Hongrie, c'est la dernière. Alors peu à peu, cette ambiance un peu, comment dirais-je, nationaliste nous a gagné un petit peu avec Antoine. Vous allez voir, on a tenu à aller dans le berceau de notre président de la République, à Boxa, oui, Sarkozy, de Nagui, Boxa. Donc, voilà, on a voulu aller voir. Voilà, quand même, si, vous nous connaissez un peu, on a cette fibre-là, et puis il suffit qu'on soit dans un pays comme celui-là pour que cette fibre, eh bien, se mette à vibrer, tout simplement. Et puis, l'auditeur qui parlait de la statue de Marx, qui est dans l'école supérieure d'économie, je j'avoue que je ne l'ai pas vu, mais on va en voir d'autres, des statues, puisqu'on va aller à Memento Park, qui est un parc à la sortie de Budapest, où sont... non pas entassés, comme on nous l'avait dit, mais bel et bien mis en scène tout un tas de statues dont on ne veut plus dans la ville, mais qu'on a quand même mis là et qui font l'émerveillement, l'étonnement et puis parfois aussi les ricanements des touristes d'aujourd'hui, parmi lesquels nous allons nous compter, mais nous serons les seuls, rassurez-vous, enfin avec vous tous bien sûr, pour cette dernière balade en Hongrie, à Budapest, évidemment, comme toujours quand on revient d'un pays, avec la certitude que nous sommes passés à côté, bien évidemment, et qu'il en reste à découvrir. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale. Je répète le numéro 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe. Un message du collectif Révolté. Le collectif Révolté a entrepris de créer un journal gratuit, indépendant et autogéré. Un automédia d'initiative populaire, Révoltez-vous. Au programme, critique des médias dominants, analyse du contexte national et international, piste d'action mêlant lutte et création d'alternatives, le tout sur un mode autogéré. À l'appel aux urnes, nous préférons l'action. La politique impacte le quotidien. Il nous faut donc la vivre quotidiennement. La gratuité est centrale à ce projet. Nous voulons toucher des personnes qui n'iraient pas chercher ce type de contenu. Cette publication sera tirée à 50 000 exemplaires minimum et distribuée partout en France le 15 avril prochain si nous parvenons à réunir la somme nécessaire. Nous avons donc grand besoin de soutien financier, logistique et aussi en communication. Pour plus d'informations, participer à la distribution, soutenir la campagne de financement, rendez-vous sur www.agirpaselire.fr et sur la page Facebook Soutien au projet Révoltez-vous. Voilà, merci, à bientôt.
Salut aux AMG du canton de Fayence. Pour vous rappeler que le prochain repère de l'Abbas Sijissu aura lieu au bar Le Latitude vendredi à 19h. Alors, pour ce prochain repère, on a décidé de vous proposer d'amener des lectures, des extraits de bouquins, de textes qui vous ont intéressé, interpellé, questionné, et puis on en débattra, voilà. Et on espère partager un moment sympa, donc à travers les avis des uns et des autres au sujet de leur lecture. Et un bon salon à Fakir, à Agon, Prime Vert ce week-end. Des bisous à tous, ciao, viva, portez-vous bien.
Bonjour Daniel, c'est Chantal. Tu sais, ton amie Chantal, je te téléphone pour te dire qu'il y a un événement hommage le 7 avril à Feur suite au décès de mon cousin à l'entreprise Valdi. Mes cousins et toute la famille font une soirée spectacle, sympa programme. Donc ce serait bien si tu peux le diffuser pour que les gens le sachent et qu'ils viennent pour soutenir la famille. Moi j'y serai, je pars du sud-ouest et j'y serai cette journée-là. Voilà, je t'embrasse et je te remercie encore une fois de ton soutien et de tes émissions. Bonne journée, salut.
Pour Marie-Hélène, Le Buisson. Il vous faut tailler mon buisson, dit la princesse au jardinier. Mon prince, parti pour la baston, va me revenir énervé. Princesse, je connais le grigou. D'un jardin tenu, il se fiche, iconoclaste dans ses goûts, il préfère les terres en friche. C'était le poète poussif et lointain. Salut.
Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l'histoire. Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l'art. Cette botanique de la mort, c'est ce que nous appelons la culture.
Regarde, c'est splendide. Marx et Engels. Oh là là. Marx et Engels en granit. Absolument magnifique. Regarde ça, le portrait qui est là. Regarde ça, si c'est gay.
Un magnifique portrait encadré du président de la République française.
Mais il était plus jeune à l'époque.
Nicolas Sarkozy, 52 ans.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la Pacifique Suite. Avec Antoine Chao, la Hongrie en marche arrière.
Flight number 2, arriving from New York.
C'est un endroit quand même extraordinaire. Là, on est quoi, à 15 ou 20 kilomètres du centre de Budapest, et c'est le parc de le Memento Park, c'est ça. Et là, on a mis en scène, hein, c'est pas une accumulation, c'est mis en scène toutes les statues qui rappellent l'époque socialiste.
À l'origine, on posa les statues comme ça, mais comme il y avait énormément de touristes qui visitaient sans arrêt, donc c'est à partir de ça qu'on a construit tous ces murs et toutes ces mises en place. À l'origine, il n'y avait pas de mise en place.
C'est un cimetière, quoi.
Bah, cimetière de statues, oui.
Alors, on a été accueillis à l'entrée par un magnifique couple, les deux barbus, Marx et Engels. De l'autre côté, il y a un Lénine magnifique. Et puis là, juste dans l'axe, il y a une paire de bottes. Mais c'est celle de Staline, bien sûr. C'est les bottes de Staline. Bah oui, on s'en doute bien. Ouais, mais on se doute bien que c'est les bottes de Staline. Et là, il y a un magnifiquissime garde rouge avec le drapeau, avec le fusil, qui doit faire une quinzaine de mètres de haut. C'est du bronze. Je vois qu'on polie les chaussures, hein. Attention, ça fait l'effet d'un culte. Attention, hein. Les bottes sont cirées.
Ouais, c'est vrai qu'elles sont bien lourdes, les statues du Memento Park, dans la périphérie de Budapest où nous nous trouvons. Aujourd'hui, ce parc se visite. Il est bien possible que ça n'ait pas été l'intention de ceux qui ont mis ces statues de côté à l'époque, il y a une vingtaine d'années. Ça a été le cas aussi à Moscou, à ma connaissance. On a fait un peu la même chose. On a déboulonné ardemment tout en gardant les socles. On a gardé les socles, on en mettra d'autres le moment venu. Et on a commencé à Budapest, puisqu'on a vu la statue de Reagan, sans socle, c'est vrai, comme ça, au milieu d'une rue. Mais enfin, c'est la même intention, de se débarrasser des statues. Ça nous ramène à l'émission d'hier, 1956. On déboulonne la statue de Staline, et puis après, on s'arrêtera plus. Enfin, ça recommencera. Donc, dans le tournant 89. Et puis, on les entasse ici, à Memento Park. Et puis, il y a des visites, les gens viennent voir. Alors, de quoi est faite cette curiosité? Et le phénomène de la nostalgie, de la réflexion, de l'interrogation, et aller savoir peut-être aussi d'une certaine admiration. Mais ce qui est certain, c'est une une certaine confusion entre des figures éminentes du stalinisme le plus totalitaire, avec d'autres figures comme celle des héros des brigades internationales ou des personnalités révolutionnaire, tout à fait honorable et héroïque. On a mis tout ça dans le même paquet, dans le même tas, tant l'utopie néolibérale était forte il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, voilà, on s'y balade, on s'y interroge, on y fait des photos avec, surplombant le tout, une paire de bottes vides. Les bottes du petit père des peuples, Joseph Staline. Mais s'il n'est pas là, son ombre et son âme continuent de flotter horriblement sur ce parc et dans la mémoire de ce peuple. C'est jusqu'à 16 heures. C'est là-bas si j'y suis, la Hongrie en marche arrière.
Cipráda szól az udvaron, vidáma lesz a ház. Vígabban főz a nagymama, rongyot vígabban ráz. Ha szállnak édes dallamok, mindenki elmereg. Bár rosszalkodnak ifjak, de ezúttal nem velem. De burlicer a verkli, ez szívvel Pesten minden ház egy-egy koncertterem, és összedobban annyi szív, míg szól a hangszerem. Mert van, ki szebben trombitál, vagy szebben zongoráz, de vélem mégse konkurál, itt mindig telt a ház. De Korlitzer a Verkli, ez szívvel
La nation hongroise est une des plus vieilles d'Europe. En 1948, le communisme fut imposé au pays. Les chefs de ce parti affirmèrent qu'ils allaient former une nouvelle génération hongroise, qu'ils bâtiraient une société nouvelle et que, sous le communisme, les Russes et les Hongrois seraient frères. Des monuments publics furent érigés à la gloire de l'Union soviétique.
Memento Park, c'est les fantômes de la dictature communiste. C'est pas seulement un lieu où on vient se souvenir, la nostalgie, réfléchir, etc. Quand même, il y a une volonté de propagande, tout simplement. Même si, probablement, on peut s'en douter, les visiteurs font ce qu'ils veulent et voient ça comme ils en ont envie. Il y a du détournement par rapport à cette intention de montrer l'horreur, la terreur communiste.
Et là, ce statut, c'est Ostiapenko, c'est capitaine Ostiapenko, donc c'est un russe. Mais il était juste à la sortie de Budapest sur le chemin du Balaton. Et comme tout le monde allait tous les week-ends au Balaton, parce que tout le monde avait sa maison de campagne au Balaton, ben c'est Ostiapenko qui était là pour montrer le chemin en disant « direction le Balaton, allez-y ». Ça, c'est une statue que tout le monde a regretté immédiatement. Ah. Parce que c'était placé dans un lieu où ça avait une fonction très nette, en disant « direction des week-ends », tu vois.
C'est-à-dire que vous avez été, en 1945, vous étiez occupé par les nazis. Vous étiez un petit peu nazi vous-même, d'ailleurs.
Et faut bien dire la vérité.
On ne peut pas cacher, ouais.
On ne peut pas cacher ça. Et les Soviétiques sont arrivés et vous ont libéré. Mais après, ils vous ont protégé. C'est-à-dire qu'ils vous ont occupé. Ça, ça a été le partage du monde à l'époque. C'était l'époque de Yalta. Exactement.
C'est toujours très controversé, cette histoire de libération. On était occupé par les Allemands et puis après, on était occupé par les Soviétiques. C'est toute l'histoire du pays qui est dedans. C'est-à-dire, on n'est pas maître de notre destin. Et c'est à travers des données extérieures qu'on doit se débrouiller le mieux possible. Et pour la Hongrie, le pays, l'époque socialiste n'était pas un échec du tout.
Celle-là, elle est d'un traitement assez étonnant, cette statue. C'est un ensemble, c'est une troupe en marche. C'est une troupe en marche. Et avec des personnages en acier, plus modernes, un peu, on dirait des boîtes de conserve, un peu des marionnettes comme ça qui avancent, avec des baïonnettes, hérissées de baïonnettes, mais ça va jusqu'au bout, avec une femme et son ombrelle qui finit le défilé, surmontant le tout, un homme dans sa tribune, qui salue ses troupes qui s'avancent, et puis il y a un lampadaire qui fait partie aussi de la scène. Voilà, Memento Park. Il y a un endroit dans lequel on aurait aimé passer plus de temps, c'est la Maison de la Terreur. On l'a évoqué à différents moments de cette suite de reportages, au beau milieu de Budapest, dans une avenue prestigieuse. Cette Maison de la Terreur, qui fut effectivement du temps de la dictature comme du temps du communisme, un lieu de la police secrète, là où on torturait les pauvres bougres, est un lieu quand même très très ambigu qui pose un certain nombre de problèmes depuis son ouverture par l'actuel Premier ministre Orban. Alors, au moment où il était une première fois Premier ministre en 2000, pose quand même un certain nombre de problèmes en posant comme évidence une équivalence totale entre l'époque des croix fléchées, c'est-à-dire le nazisme hongrois qui a été particulièrement une abjection totale, bien évidemment, mais qui stupéfiait, dit-on, les nazis eux-mêmes par leur brutalité, mis en équivalence complète avec le communisme. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans cette Maison de la Terreur, qui est un musée aujourd'hui, vous voyez deux plaques de marbre avec en équivalence la découpe du sigle des croix fléchées et exactement la même taille l'étoile rouge du communisme. Et cette équivalence a été voulue, on en a parlé à plusieurs reprises au cours de ces reportages, mais c'est un thème sur lequel il faut revenir parce que c'est un thème presque fondateur de l'idéologie actuelle, de l'idéologie de la majorité actuelle, du gouvernement actuel, qui est de mettre ces deux forces, ces deux symboles sur le même pied et de renvoyer dos à dos deux totalitarismes sur le raisonnement qui dit les extrêmes se rejoignent, ce qui est bon, ben c'est pas ces extrêmes-là, c'est le juste milieu. Et le juste milieu, vous l'avez compris, c'est le néolibéralisme, c'est la démocratie néolibérale. Et ce raisonnement qui est très présent, qui a imprégné, imbibé très profondément les esprits, les mentalités, notamment il y a une vingtaine d'années, au moment de la chute du mur de Berlin, doit être mis en cause pour de multiples raisons. Il n'y a pas une équivalence. Il faut lire Raymond Aron et d'autres penseurs, bien évidemment, ou bien faire marcher tout simplement son bon sens, pour voir qu'il n'y a pas une équivalence entre ces deux totalitarismes. Il y a des différences fondamentales, il y a des différences importantes qui méritent réflexion et on ne peut pas comparer, je crois, Jean Ferrat et Eichmann. Ça reste impossible et ça restera impossible extrêmement longtemps, mais on pourra revenir sur ces thèmes qui, encore une fois, sont très importants dans nos esprits et à nous tous
européen et même au-delà. Pour l'instant, on est dans ce parc, ce Memento Park, avec notre amie Judith. C'est formidable, on est les seuls visiteurs. Le soir descend, il y a un coucher de soleil rouge avec un décor d'arbres morts, de pylônes électriques au loin et des silhouettes de maisons et des silhouettes de ces impressionnantes statues.
Tu vois, le statut, c'est aux armes.
Cette sculpture, elle est magnifique. Hein. C'est un homme qui court. Elle est énorme. Elle fait bien une dizaine de mètres de haut. Avec, dans le fond, ce château d'eau, les arbres morts. Là, et c'est le ciel qui grille et la nuit qui vient petit à petit. C'est extraordinaire, cette silhouette. Hein. Et ça, c'est aux armes.
C'est le monument en hommage à la République des Conseils. En 1919, du 21 mars au 6 août, un gouvernement révolutionnaire qui n'a duré que 133 jours. La République des Conseils.
Aux armes, c'est-à-dire appel à rejoindre l'armée contre l'occupation française, roumaine, tchèque, etc. Appel à rejoindre l'armée de la Révolution. Et c'est à partir de ce poster que le statut a été fait.
D'accord, d'accord. Magnifique.
Qu'est-ce qui est gravé sur cette pierre-là?
En souvenir des membre hongroise des Brigades internationales d'Espagne, 36-39. Et ça a été bâti en 1970 par la ville de Budapest.
Et donc, il y a trois miliciens, donc, des milices internationales, qui brandissent le poing droit.
C'est-à-dire que là, on amalgame tout entre le stalinisme le plus épouvantable et le mouvement ouvrier. On a mis tout ça dans le même sac.
On jette tout, oui, qui fait penser à l'époque socialiste et à l'époque gauche du pays, la période gauche ou gauchisante du pays.
Alors voilà, ça c'est un bas-relief qui date de 1983.
C'est les mémoires des héros, oui, les héros des pouvoirs populaires. C'est-à-dire pour les petits gens qui luttaient pour le pouvoir populaire dans n'importe quelle circonstance, visiblement.
Voilà, ça c'est un bas-relief qui date de 1983.
C'est la mémoire des héros, oui, les héros des pouvoirs populaires. C'est quand même un héroïsme en faveur du peuple qui prend son destinée en main et essaye de créer une société nouvelle. Et il ne précise pas en fait à quelle époque, contre qui, contre quoi, c'est uniquement en faveur des gens qui luttent.
Fantôme de la dictature communiste, en voyant ce monument aux brigades internationales antifascistes relégué dans ce parc, notre sang ne fait qu'un tour, peut-être celui encore plus rapidement, chez Antoine Chao, de voir les brigadistes hongrois assimilés au crime du stalinisme. Il y a eu entre 1200 et 1500 jeunes hongrois qui ont rejoint les brigades internationales en 1936 pour se battre contre le franquisme, avec d'autres jeunes gens du monde entier qui sont venus. C'est un moment particulier héroïque et formidable de notre histoire, de l'histoire du XXe siècle. Et voilà que ceux-là sont relégués. D'ailleurs, ils étaient très mal vus, c'est toute une histoire qu'il faudrait développer, mais qui est passionnante. À leur retour en Hongrie, la plupart n'ont pas trouvé la place qui leur revenait dans le socialisme qui se développait et de la façon dont il s'est développé. On continue cette balade étrange et un petit peu lugubre parmi les fantômes de la dictature communiste.
C'est vrai que ici c'est un parc où on met tous les statues qui sont trop marquées à gauche.
Regarde le soleil rose derrière là, le soleil couchant, ce grand ciel immense avec les statues qui se découpent. Ça a une gueule formidable, hein. Personne. Il y a beaucoup de visites, hein, je suppose, au cours de l'année, non?
Il n'y a que des touristes. Je te dis que pour les Hongrois, cet emplacement, ça...
c'est l'enfer.
Ben voilà, on ne peut pas y venir, c'est pas possible, quoi.
Il y a une mise en scène un petit peu camp de concentration, là, quand même, hein, avec ces perspectives très dures, aiguës, en briques rouges, ce grand portail triangulaire, et puis ces grandes portes métalliques, là, ça fait vraiment rideau de fer. On n'est pas chez Mickey, on n'est pas chez Disney, hein.
Non.
On sent que on entre dans un endroit terrible, en hommage à ceux qui ont souffert et qui ont été les victimes du stalinisme. Mais c'est vraiment le musée de l'amalgame. Mais tu sais, dans 20 ans, 30 ans, ici, ce sera le musée de l'horreur ultralibérale.
Il se peut, hein.
Voilà. C'est vous qui êtes à l'avant-garde avec la statue de Ronald Reagan. Vous aurez,
avant-garde sur les autres pays, tu veux dire?
Oui, parce que l'horreur néolibérale, vous avez déjà commencé à avoir des statues qui la représentent avec Ronald Reagan.
Tout à fait, ouais.
Et vous allez avoir, je ne sais pas, ça va être Auchan, Suez, les grandes entreprises, ça va être... qu'est-ce que vous allez avoir? Vous avez la statue d'un chômeur, d'un enfant rom qui n'a pas à bouffer.
Ouais.
L'école détruite, la santé détruite.
Détruite, la retraite détruite.
La retraite détruite.
C'est quand même... Ouais.
Vous allez avoir un musée de l'horreur dans peut-être moins de 20 ans.
C'est pas si longtemps que ça. Les gens commencent à se rencontrer rapidement.
Chocar sem chocar que les palas manda tu meras. Chocar se queria cata. Chocar sem chocar que les palas manda tu meras. Chocar se queria cata. Tudo da la la mira. Mamo pare la tigre. Tudo la la. Chumida me que gosta te. Tudo la la mira. Mamo pare la tigre. Tudo la la. Chumida me que gosta. Dik man tu pala mate, dik la la mira, mama pala la tigre, dik la na chu, mi da me que gusta te, dik la la mira, mama pala la tigre, dik la na chu, mi da me que gusta. Chocar se queria cantar, gritando a lameira, mamãe vale lá e credo, gritando a lama, chumida me que gosta de, gritando a lameira, mamãe vale lá e credo, gritando a lama, chumida me que gosta.
Nee, kutje van niet.
Ça c'est Skubas. Ça c'est le véritable chien hongrois, quoi. C'est ça, le Skubas.
Assez dangereux aussi.
Ouais. Mais c'est le chien donc qui est non imposable, c'est ça?
C'est ça, tout à fait. Bien défini.
Le Skubas, alors c'est comme un chien des Pyrénées, un peu. Un chien de montagne, quoi. Un gros berger. Ah, il a l'air gentil, ce Skubas. Oh, alors Skubas, t'es une petite niche fiscale, toi. Alors les chiens, Skubas. Oh! Non imposable, mais... pas caressant, hein, le Skubas. Pauvre chien, il est pour rien, lui, hein. Et il se retrouve comme ça au cœur des enjeux de défiscalisation, là, du capital hongrois. Ben voilà, il y en a ras-le-bol, il retourne dans sa niche.
Ah là, il faut qu'on vous explique, hein. Vous demandez ce qu'on fait, ce qu'Antoine fait avec ses gros chiens. Eh bien, figurez-vous que le Parlement... hongrois, à la mi-novembre dernier, a accepté la modification d'une loi sur la protection des animaux. Et cette modification permettra à l'avenir aux municipalités de lever un impôt sur les chiens. Alors, les maîtres des chiens doivent désormais débourser pour leur toutou des sommes de entre 20 et 60 euros. 60 euros pour les races dangereuses, et puis 20 si vous avez un petit caniche. Les Hongrois ont l'air très, très affectueux avec les chiens. Ils aiment beaucoup, ils ont beaucoup les chiens. Donc voilà, ça fait une rentrée d'argent pour l'État. Mais c'est pas pour tous les chiens que vous payez la taxe. Vous ne payez pas si c'est un chien de race hongroise. Voilà. Si c'est un vrai chien, comme celui-là, avec lequel on est en train de se débattre, eh ben, vous payez pas. C'est un chien de race pure hongroise. C'est gratuit. Alors, il y a toute une série de chiens qui proviennent de la Grande Hongrie. On vous a raconté assez souvent l'amputation de la Hongrie en 1920. Eh bien, si votre chien est originaire des parties de la Hongrie restées en Slovaquie, en Roumanie, etc., eh bien, vous ne payez pas. Vive la Grande Hongrie, vive les chiens de race pure, dangereux peut-être, mais hongrois avant tout.
C'est un poulet, il ne paye pas d'impôts.
C'est un chien défiscalisé, ça.
Absolument défiscalisé, race hongroise.
On est au milieu de la grande plaine de Hongrie. On voit très bien que c'est vraiment plat, plat, plat. Et on arrive sur Bocsa.
Bocsa qui s'écrit B-O-C-S-A, hein, le CS qui fait tché.
Qui fait tché, ouais. C'est une lettre chez nous. Et paraît-il que c'est la patrie d'origine de Monsieur Sarkozy, votre président. Mais Sarkozy, c'est un nom très, très commun. Il y a beaucoup de familles Sarkozy dans toute l'histoire de la Hongrie. Et il y a beaucoup de Sarkozy Tigane aussi.
Ah bon?
Ah oui, oui, oui. Sarkozy, ça signifie en fait ces deux mots. Char, parce qu'en hongrois, ça se prononce char. Char, c'est la boue. Et kozy, c'est entre. Donc, c'est entre deux patelins boueux, en quelque sorte.
Bocsa, ça y est, nous y sommes.
T'es arrivé?
Ah, Bocsa.
Bocsa. Bon, il va falloir chercher la mairie.
Alors, Bocsa, nous voilà à Bocsa, village natal du père du président de la République française.
Un petit mairie, alors, voilà, voilà, on est là. Mais le village
c'est la mairie,
n'est pas
hein.
grande, ouais. Ça c'est la mairie, ouais. On espère qu'il y a une dame qui vient, quelqu'un qui nous accompagne, et une clé pour aller dans un petit musée où peut-être qu'on va trouver
des merveilles.
Oui, les merveilles.
Alors évidemment, c'est pas là qu'il est né.
Jó napot kívánok.
Bocsánat, nekem vissza kell mennem testemre. Jó.
Alors, elle s'excuse, elle va pas pouvoir venir avec nous, mais c'est la femme de ménage qui nous donnera la clé et qui nous montrera le chemin et qui va nous ouvrir ce petit musée local.
Et qui peut nous donner quelques explications alors?
És nincs valaki, akinek
la femme de ménage
beszélhetne velünk.
C'est embêtant parce qu'on est de la radio nationale. Le président de notre radio a été nommé par le président de la République.
Donc, ma radio, mon problème, c'est que moi, j'habite même pas dans ce village. J'ai entendu déjà M. Sarkozy comme président, mais c'est la seule chose que j'en sais. J'en sais rien du tout.
C'est lui qui est en difficulté en ce moment.
Azóta nincs közművésünk.
Quand même.
De...
La femme qui s'occupait de toutes les questions de
Sarkozy.
Ancienneté, histoire du village et tout, elle est partie déjà à la retraite et puis elle a quitté la région, donc on ne peut pas l'appeler non plus.
C'est une désaffection, c'est un peu un désaveu de la part des Hongrois.
Csináljuk úgy, hogy most eltetszenek menni a tájházba, hogy nyugodtan szétnézni, és utána úgyis visszajönnek ide, hát ha addigra végzünk a testületülésre, jó, a polgármester úr, akkor hát tud egy pár szót váltani, majd...
Alors, elle nous conseille qu'on aille voir dans le petit musée, on fasse ce qu'on peut, et puis quand on revient pour ramener la clé, à ce moment-là, peut-être le maire, monsieur le maire, va être déjà libéré.
Ah oui,
et puis,
ah, voilà.
Ce serait bien qu'on puisse parler avec le maire. Parce que nous, on vient de la radio nationale. Parce que notre président de la radio a été nommé par le président de la République. C'est un peu comme chez vous maintenant. Chez vous, les responsables de presse sont nommés par le Premier ministre Orban. Nous, on l'a fait avant. Avant vous, déjà, Monsieur Sarkozy a nommé le président de la radio.
Tehát maradjunk ennyibe, jó? És akkor én mindjárt tolmácsolom a polgármester úrnak, és akkor hát, ha egy pár percet, akkor... De ott, addig tessenek nyugodtan szétnézni. Azt megmondom őszintén, hogy...
Donc elle nous a, la femme de ménage nous accompagne et puis après peut-être que le maire va pouvoir discuter avec nous. Elle comprend bien notre problème, mais ça c'est clair, mais elle fait le maximum qu'elle peut.
Non mais on va y aller avec la femme de ménage, il y a pas de problème. On est sur la rue principale, il y a des chiens qui aboient. Il s'appelle Sarko.
Sarko, dégage.
Oh, un petit roquet, là.
Dis-moi, Yuli, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout de Sarkozy ici.
Ben, je pense que...
Égare, quand même.
Exactement,
c'est... Pour un si grand homme.
Ouais, enfin... Je pense que pour les villageois, c'est... Vraiment, c'est la dernière de leurs soucis. Qu'est-ce qu'ils sont... Où est la France? Qui est le président de la France? C'est vraiment dans un village de Hongrie. Pourquoi tu veux que ça intéresse les gens? Je pense que c'était plus important pour lui de venir ici parce que c'est ses racines, il y a toujours cette nostalgie pour l'ancienne noblesse.
Oui, le petit musée, alors il y a une petite palissade toute déglinguée.
C'est joli, comme, c'est rustique, hein? C'est simple, c'est rustique.
Ouais. C'est une maison de la campagne typique, quoi.
C'est pas la bonne clé. Il n'y a pas beaucoup de passages, hein, j'ai l'impression. Il y a des vieux cadenas, on ne trouve plus les clés. Ah ouais? On va ramener le cadenas par là. On ne va quand même pas se laisser arrêter par un petit cadenas comme ça. Il faut dire qu'il n'y a pas grand monde qui passe ici. Hein. Voilà.
Voilà.
C'est bon.
Ça, ça date de... du préhistoire.
Ça, c'est en il y a encore une porte à ouvrir. Premier coup.
Ah.
Voilà, ah, une deuxième porte encore.
Voilà.
Et on rentre.
On
entre dans le petit musée.
Et qu'est-ce qu'on voit?
Qui n'est pas très chauffé. Et qu'est-ce qu'on voit en arrivant? Un magnifique portrait encadré du président de la République française.
Ben, il était plus jeune à l'époque.
Ouais, mais c'est quand même...
C'est vraiment le portrait au moment où il a fait la visite, hein, en 94. Hein.
Voilà. Alors ça, c'est vraiment l'honneur de ce petit musée.
Et il est posé là sur une petite table basse, là au coin d'une porte, c'est peut-être les toilettes qui sont là, encadrées, un sourire un peu forcé sur le portrait. Là, ouais, c'est ça, c'est bien lui.
Ouais, c'est un beau portrait, mais... Attends, c'est pas la seule chose de notre président de la République française dont voici le berceau. Si, c'est tout.
Et ben là, chers habitants de Bocsa, pour nous, famille franco-hongroise, c'est un honneur d'être sur la propriété d'une illustre famille d'aujourd'hui, les Sarkozy. Nous vous remercions de votre accueil, de votre gentillesse, un grand merci et à bientôt. Signé monsieur...
Monsieur Boulet, mais c'est de 2008, c'est il y a 4 ans. Alors, en français, il n'y a pas grand-chose, hein, franchement. Sympathique accueil, merci pour ce si sympathique accueil, 2007. Remerciements pour votre sympathique hospitalité. Merci de votre aimable accueil lors de notre passage à Bocsa, ce dimanche 20 mai 2007, à la découverte du village d'origine de notre président de la République, monsieur et madame Delacote Jean-Marc, famille
de camping-caristes, des gens qui font du camping-car, voilà.
Sur les traces d'un futur président français, point d'interrogation. Réponse dans quelques heures. Merci de votre chaleureux accueil et de votre gentillesse. Voilà, c'était un magazine suisse qui était là. Oh, c'est quoi ça? Nicolas Sarkozy de Nagui Boxa. Voilà, ça c'est la signature de notre président de la République, est au bout de mon doigt, et c'est à la main, en souvenir d'un moment privilégié, point d'exclamation, et c'est signé de Nicolas Sarkozy de Nagui Boxa. Voilà. Ça, c'est quand même extraordinaire, non? Ou bien alors, vous vous en foutez complètement?
C'est possible, ça. C'est possible que les habitants de Boxa, effectivement, soient très, très loin de tout ça, quoi. Voilà. C'est manque d'affection, manque de considération. Enfin, nous, on espère quand même encore être reçus par une personnalité, quand même. Enfin, on n'est pas n'importe quoi. France Inter, hein, Radio France, c'est pas n'importe quoi. Il y a cette charmante femme de ménage là qui nous a conduit jusque-là, finalement, pour voir une photo dans un cadre en bas d'un mur, la photo représentant notre président de la République. Mais c'est, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a découvert, admiré. Et j'ai pas l'impression que on a envie de nous parler plus que ça.
Ah, voilà. Sur les traces de Sarkozy le Hongrois. Sarkozy le Hongrois. Hein? Oh.
Regarde ça, le portrait qui est là. Regarde ça, si c'est gay.
C'est la fête magyar.
Fête magyar à Boxa. Le groupe folklorique du village d'origine des Sarkozy, en plein cœur de la Hongrie, a fêté la victoire dimanche 6 mai du nouveau président français comme celle de l'un des siens. La jeune Renata, 22 ans, se souvient qu'elle avait 9 ans lorsque Nicolas Sarkozy, alors ministre du budget, était venu retrouver ses racines hongroises. Regarde, la main sur le cœur, le président français est d'origine hongroise. En 1994, accompagné de ses parents, il était d'ailleurs retourné dans ce pays que son père avait quitté pour la France. L'Illustré, le journal que nous feuilletons, a retrouvé la trace de ceux qui l'ont connu. Ils disent leur fierté et leur émotion. Voilà, le sacre Nicolas Sarkozy, 52 ans, est le premier président français de l'histoire, élu au suffrage universel issu de l'immigration. Son père, pâle, 79 ans, avait fui la Hongrie en 1947. Eh oui, 1947. Vous savez qui est arrivé en Hongrie en 1947 ? Les communistes. Nicolas était un petit garçon très intelligent. C'est la petite cousine de Nicolas Sarkozy, Marianne, 91 ans, la dernière représentante à l'époque, hein, à l'époque de ce numéro de l'Illustré. Pèlerinage d'un ministre sur ses terres d'origine, le berceau des Sarkozy, la visite du souvenir, le pèlerinage familial. Sarkozy est très attaché à ses racines. Il va entrer dans notre musée, dit Margit Tot, historienne, mais aussi gardienne du petit musée de Boxa, petit musée où nous sommes. Et ce que j'ai là, eh ben, sous les yeux, moi je peux toucher du doigt la signature, voilà, autographe du président de la République.
Bon, ben, on n'en sait pas beaucoup plus, hein. On reste un peu sur notre faim, quoi.
Bah oui, enfin ça fait quand même plaisir.
Tu signes pas le livre d'or, Daniel?
Ah si. Alors comment il s'appelle déjà, Nicolas?
On dit toujours le nom de famille d'abord ici.
Donc on dirait Sarkozy Miklós.
Ça se prononce en hongrois Sarkozy. Char, c'est la boue.
C'est sûr que tu n'es pas en train d'insulter notre président de la République.
Disons que le nom, ça fait référence directement à un paysage où il y a beaucoup de terrains boueux.
Tiens, tu nous lis la dernière signature en date du livre d'or.
Ça, c'est la dernière signature de France Inter. L'équipe de là-bas, si j'y suis. Merci pour cet mouvement.
Émouvant hommage.
Émouvant hommage. À la hauteur de ce grand président français qu'aura été Nicolas Sarkozy.
espérant
un jour voir ici un monument même, modeste, une statue, un centre d'études, bref, tout ce qui pourra
prolonger
l'œuvre et le message du grand président français. L'équipe de Là-bas, si j'y suis, France Inter.
Je crois que là, on a rempli notre mission.
Moi, je pense qu'en effet, parce que je sens une certaine désaffection, franchement. Entre, eh oui, parce que quand il a été élu, alors il y a eu une fierté, il y a eu des reportages, il y a cette photo, il y a eu des danses folkloriques autour de cette photo. Et puis, avec le temps, peu à peu, voilà, il y a une certaine désaffection. Maintenant, où il a vraiment besoin du soutien de ceux qui sont à ses racines, dans son terroir, eh bien, on l'abandonne.
Sa gadoue, quoi, c'est ça.
Hein. Dans sa gadoue. On est tombé un peu dans sa gadoue.
C'est comme ça qu'on traduirait.
Vous êtes méchant. Ça va faire une très mauvaise émission. On a fait des milliers d'émissions. On a pas loin de 5000 émissions. Je crois que celle-là, ça va être la plus médiocre, comme lui. Il y a quand même quelques ossements là-bas, mais c'est pas la famille, ça.
Et c'est pas de lui, en tout cas.
C'est joli, ce petit musée, sinon, hein.
Il nous vient tout droit d'Hongrie. Il est tout petit, Nicolas Sarkozy. Nosferatu du quai des orfèvres, le brochigue des dangues, grands oreilles, l'œil est sombre, plantiez-vous le voilà. On l'adore chez tous les pandores, les CRS de lui les caresses. On va rêver de tous les poulets, la matraque, la flèche, mal, les menottes, radiateurs, on va bientôt déguster. Hey. Quand il voit un rhum, tout de suite il le dégomme. Quand il voit un beurre, il fait chauffer les chardeurs. Quand il voit un black, on entend voler les claques. Aïe, il est comme ça, notre Nicolas. Quand il voit un rhum, tout de suite il le dégomme. Quand il voit un beurre, il fait chauffer le chardeur. Quand il voit un black, on entend voler les claques. Aïe, il est comme ça, notre Nicolas.
Donne tes papiers.
Merci à tous, merci à tous. C'était le dernier volet de la Hongrie en marche arrière. Un reportage à Budapest et à Boksa, vous avez entendu, avec Antoine Chao. Merci à toutes et à tous, Judith Morva, Catherine Dederer, Esther Golnofer, Marina Pommier, 26 Zabo, Corentin Léotard, Cédric et Andras Dufrisgo, et puis à tous les amis du Café Repère, là-bas si j'y suis, de Budapest. Merci à Christophe Zampati, Susanna Sarkozy, merci à Zoltan, Thibault, Yanos Farkas, merci aussi à Christophe Ventura, Gaspard Mikostamas, Victor Lugosi et Catherine Aurel. Merci à Johan Pomero, Fabien Perrier, Thierry Dupin, Antoine Villos. Merci à Grégory Salomonovitch pour le montage. À lire le dossier Hongrie, un modèle Orban sur le site d'information Mémoire des Luttes. Un entretien de Catherine Aurel sur le site de là-bas.org vous attend. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette série d'émissions, ainsi que sur le site là-bas.org, là-bas.org. Et vous pouvez également nous retrouver sur notre page Facebook. Sur le site là-bas.org, vous avez une série de photos qui évoquent cette suite de reportages. À la technique aujourd'hui, Guillaume Roux et Frédéric Boeuf. Bertrand Chometon et Franck Adhérère ont réalisé cette émission, assistée de Marina Touyez et Grégory Salomonovitch. Attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. Vous savez, ce qu'il vous reste à faire, c'est d'aller faire un tour en Hongrie et à Budapest, qui est une ville très, très sympa. Les bains, bien sûr, vous raterez surtout pas les bains, parce qu'on en a profité, on n'a pas fait de reportage sur ce sujet, parce que si on a un peu peur pour notre matériel et pour nos micros, mais c'est des endroits formidables. Il y a une vie merveilleuse la nuit. Enfin, vous pouvez vous amuser. N'hésitez surtout pas que l'épouvantail d'Orban ne vous arrête surtout pas. Réclame.
Oh, le beau buffet Louis XV d'époque en vrai formica!
C'est moi qui l'ai fait tout seul avec mes 9 doigts!
9 doigts? Mais où donc est-il passé le 10e?
Dans l'étau, je l'ai scié! Oh Dieu, l'étrange peine!
Contre les accidents de la vie, la Matmut t'assure! Et cela me rassure!
Selon les conditions définies au contrat multirisque accident de la vie de la Matmut.
Dans son livre Parole, Parole, Frédéric Pommier décortique l'éthique de langage de nos politiques.
La hollandonormie, affection se manifestant par l'usage répété du mot « normal ». La sarcocassite, affection se manifestant par l'usage de l'expression « casse-toi pauvre con ». La zadiguévolture, affection se manifestant par l'incapacité à citer correctement les titres des livres.
Parole, parole, formule de nos politiques, de Frédéric Pommier, une coédition France Inter.
À demain, 15h, pour là-bas, si j'y suis, les infos, Yann Gallic. Salut.
La communauté internationale se penche au chevet de la Somalie, un pays longtemps oublié et en pleine guerre civile depuis plus de 20 ans. Un pays où les soldats de l'Union africaine luttent contre les groupes islamistes, les Chebabs, qui contrôlent une partie du territoire. Une quarantaine d'États, dont la France et les États-Unis, sont réunis en ce moment à Londres pour évoquer l'avenir de la Somalie, mais aussi les problèmes de piraterie dans la région. Les Chebabs somaliens proches d'Al-Qaïda promettent déjà de combattre toutes les décisions qui seront prises aujourd'hui en Angleterre. Et en marge de cette conférence, les diplomates ont aussi discuté de la situation en Syrie. Un plan d'aide humanitaire sera proposé dès demain. Les États-Unis, l'Europe et les pays arabes pourraient même lancer un ultimatum à Bachar el-Assad, tandis que la ville de Homs est toujours bombardée. Homs, où 2 journalistes sont morts hier, dont un photographe français. D'autres ont été sérieusement blessée, comme Edith Bouvier, la reporter du Figaro, qui lance d'ailleurs un appel à l'aide dans une vidéo diffusée sur Internet. Elle demande à être évacuée au plus vite. À Moscou, plus de 100 000 partisans de Vladimir Poutine se sont rassemblés aujourd'hui. Une foule réunie dans un stade pour écouter le Premier ministre russe, favori de l'élection présidentielle du mois de mars. Vladimir Poutine l'a répété « Je ne laisserai personne s'ingérer dans les affaires de notre pays ». Une manière de répondre à l'opposition russe qu'il accuse d'être à la botte des Occidentaux. Barack Obama présente ses excuses au peuple afghan. Des soldats américains ont brûlé cette semaine plusieurs exemplaires du Coran sur la base militaire de Bagram. Un geste qui a provoqué la colère des Afghans et des émeutes un peu partout dans le pays. 2 soldats américains ont d'ailleurs été tués aujourd'hui par un militaire afghan lors d'une de ces manifestations. Le Parlement grec adopte en urgence le projet de loi pour effacer les 107 milliards d'euros de sa dette détenue par les créanciers privés du pays. Cette loi votée à la majorité des députés présents est censée aider la Grèce à remplir les objectifs qui lui ont été imposés, à savoir réduire sa dette publique à 120% du produit intérieur brut d'ici 2020. En attendant, la population grecque, qui a déjà fait beaucoup de sacrifices, devra encore se serrer un peu plus la ceinture. En football, enfin, Laurent Blanc, l'entraîneur de l'équipe de France, a révélé la liste des 23 joueurs qui affronteront l'Allemagne en match amical le 29 février à Brême, avec une première sélection pour Morgan Amalfitano, le joueur de Marseille. Laurent Blanc a également rappelé Luis Saha, l'attaquant de Tottenham, pour remplacer Karim Benzema, blessé.
Quand la musique donne, Didier Varro.
Rock, musique électro, techno,
chanson, rap.
La musique d'aujourd'hui, en fait, de la musique moderne.
Quand la musique donne, les styles se croisent, se rencontrent et s'interpellent. Moriarty, c'est Folk Me Tender au pays de France. DJ Cam, c'est toujours l'homme qui fait pleurer les machines. Ils écouteront leurs différences, même s'ils symbolisent chacun l'évasion dans une Amérique fantasmée.
Quand la musique donne, demain sur France Inter, à partir de 16h. France Inter. La différence.
Il est 16h03, il est donc grand temps de retrouver Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric.
Et bonjour Yann. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de feuilleter le nouveau Diapason, c'est le 600e numéro, eh oui déjà. Et alors pour fêter ça, et peut-être pour s'ouvrir encore à de plus jeunes lecteurs, il y a même un roman photo où on voit le travail de la rédaction, on voit la rapidité nécessaire, on voit l'urgence avant de boucler comme on dit. On voit un des journalistes qui a pris son étagère de disques sur la tête ou de livres et qui est à l'hôpital, la tête tout enrubannée. Enfin bon, c'est sympathique, c'est humoristique et puis alors l'histoire du disque sur plusieurs décennies, de 1956 à 2012, 5 décennies exactement. L'œuvre du mois, c'est Idoménée de Mozart, analyse, un pianiste, Steffenhoff, dont on nous parle en détail. Enfin bref, comme toujours, beaucoup de critiques. Et puis les diapasons d'or, France Inter, qui sont en valeur aussi, avec le choix d'Arte. Pour les passionnés, les passionnés de musique, c'est un vraiment très très joli magazine. Et on rend hommage à Gustave Léonard, j'ai déjà évoqué ici ce grand monsieur de l'orgue, du clavecin et de la musique ancienne en général, chef d'orchestre aussi, donc un des papes de la musique d'autrefois, de la musique baroque précisément, et plein de musiciens ont écrit un petit mot ou bien carrément un beau paragraphe pour tirer leur chapeau. Et puis on dit quelques petites choses aussi de Léonard, on dit sa rigueur, son côté extrêmement soucieux de la pure vérité musicale, enfin d'une vérité, parce qu'il n'y en a pas qu'une bien sûr, mais enfin voilà, qui était calviniste. Il dit lui-même qu'il ne supporte pas finalement que la musique soit intégrée à la religion, qui a joué toutes sortes de musiques, de la musique d'opéra aussi, qui n'aime pas les mises en scène d'aujourd'hui. C'est une expérience souvent schizophrène. Il faudrait posséder deux cerveaux et deux cœurs, un pour la musique, un pour le théâtre, pour comprendre ce qui se passe, etc. etc. Et qui dit, quand on joue, on ne pense pas, on a pensé. Mais voici du Clavier bien tempéré, volume 2 de Jean-Sébastien Bach, un prélude et fugue en ré majeur.